Par Echout Ve'emouna, donc ce qu'on avait fait la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était une introduction. Une introduction dans laquelle on a parlé d'éducation, et dans laquelle on a parlé que finalement ce qu'on va faire dans les chapitres suivants, on va essayer de nous éduquer à la Emouna, de nous éduquer à l'importance de croire en l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi c'est très important de s'éduquer à tout ça? On avait expliqué donc les bases dans le cours de la semaine dernière, le cours de la semaine d'avant. On a expliqué que quand on ne comprend pas ce qu'on fait, on a beaucoup de mal à ressentir ce qu'on fait. De la même manière que quand on nous demande d'éduquer un enfant. Est-ce que moi je sais comment l'enfant il va pousser? Comment tu peux me demander d'éduquer l'enfant selon son chemin? Est-ce que moi je sais comment il va pousser l'enfant? On a dit non. Moi je ne sais pas comment il va pousser l'enfant. L'enfant il poussera comme il voudra. Par contre, ce qu'Akadosh Baruch Hu il me demande, c'est de lui mettre les bons outils pour que le jour où il voudra réfléchir, il aura de quoi réfléchir comme il faut. C'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Le Morazaka ne peut pas venir pour nous imposer. La Emouna, personne ne peut nous l'imposer, personne ne peut nous la dicter, personne ne peut le faire à notre place. Chacun aura sa manière de croire. Et la manière de croire d'un juif ne correspondra jamais à la manière de croire d'un autre juif. Mais, par contre, ce qu'on peut faire, ce que l'Admor HaZaken peut faire, c'est qu'il peut nous donner des éléments de réflexion. Afin que lorsqu'on voudra réfléchir, on aura de quoi réfléchir. C'est ce qu'on appelle le chinour, ce qu'on appelle l'éducation. C'est ce qu'on va faire, Bezrat HaShem dans les chapitres qui vont suivre. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord faire une petite introduction. Une petite introduction pour expliquer le premier chapitre de Shaar Echout Ve'emouna. Donc c'est un chapitre qu'on a déjà étudié avec Yaakov, hein, en mode VIP. On peut pas tout dire, mais bon, certaines choses on peut dire.
On est au courant de tout. Hey, pas avoir la codex, on sait. On connaît la grandeur de chacun.
Alors, tu as la page, Yaakov? Pérec Aleph.
Il n'est pas encore descendu.
Alors, je vais d'abord, avant de commencer le Pérec, avant de commencer ce chapitre, il faut d'abord savoir que dans ce chapitre, on va expliquer la particularité, la manière de voir la création du monde selon le Baal Shem Tov. Alors, on va tous se poser la question, mais pourquoi selon le Baal Shem Tov? Pourquoi on ne croyait pas en Dieu avant le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il y a à Baal Shem Tov? D'accord? Alors, ce qu'on va expliquer, c'est que le chidouche du Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov va expliquer, on va rentrer dans les détails, que chaque chose qui existe dans le monde ne peut vivre uniquement que grâce à la parole de Dieu qui fait vivre cet élément constamment. C'est une chose, il faut savoir que jusqu'au Baal Shem Tov, on n'y croyait pas. Jusqu'au Baal Shem Tov, on pensait que Dieu a créé le monde, Dieu continue à gérer les choses très importantes, comme par exemple tout ce qui est lié à la Kdusha, tout ce qui est les choses très importantes, mais des choses banales, Dieu ne fait pas forcément attention à ça. D'accord? Dieu ne joue pas au... Comment il dit l'autre? Tu ne joues pas au dé, qui c'est qui a dit ça? Il y en a qui a dit ça, non? Bon, alors c'est comme ça qu'en tout cas que les gens pensaient avant le Baal Shem Tov. Alors, avant le Baal Shem Tov, les gens pensaient comme ça, les gens pensaient que le monde tenait sans forcément la présence, pas la présence, mais sans forcément l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Quelle était la manière de voir les choses des gens avant le Baal Shem Tov? Les gens disaient, c'est très simple. C'est comme si j'ai un artisan ici, qui a créé une bouteille. Vous voyez la bouteille que j'ai dans moi? Bon, elle a été dessinée par quelqu'un. Elle a été façonnée par un artisan. Une fois que cet artisan ou cette machine a façonné la bouteille, la bouteille est indépendante, la bouteille n'est plus besoin de la machine. C'est vrai que toujours on se rappellera que cette bouteille a été façonnée par monsieur un tel, mais concrètement, une fois qu'elle est faite, elle est faite, ça y est. Vous avez des gens toute la vie va te rappeler un jour chez eux. Ça va, ça y est, c'est fini, tu l'as fait, ça y est. Maintenant, ça y est, on passe au suivant. Donc jusqu'au bas de cet homme, les gens pensaient que c'est la même chose pour la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il continue à intervenir puisque c'est son monde, mais c'est comme un objet qui a été créé, que Akadosh Baruch Hu, s'il veut, pendant des mois et des mois, il peut laisser le monde tourner, et le monde va tourner, puisque c'est déjà un objet qui a été créé, et c'est un projet qui tourne de soi-même. Et c'est là le chidouche que le Baal Shem Tov va expliquer, alors on peut le dire en 30 secondes, mais on peut le dire en plusieurs mois, que le Baal Shem Tov va expliquer que, en fait, le monde a été créé d'une manière yesh miaïn ex nihilo, ça veut dire quoi, comment on va développer? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul instant, Akadosh Baruch Hu ne peut relâcher la chayout, ne peut relâcher la vitalité, l'énergie qui fait vivre ce monde-ci. D'accord? Alors vous allez voir comment la Admor HaZaken va développer, puisque le problème qu'on a, comme beaucoup de choses avec les commentaires du Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov a dit des mots très très courts, et que les gens quand ils étudient ce que le Baal Shem Tov a dit, ils croient qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris. Comme par exemple, là, maintenant, on a dit, oui, le Baal Shem Tov, il a dit, le monde, Akadosh Baruch Hu, il fait vivre le monde constamment. On dit, oui, bien sûr, c'est évident, on a compris, on a besoin du Baal Shem Tov pour nous le dire. On croit qu'on a compris. La vérité, pour comprendre qu'on n'a pas compris, on va d'abord avoir besoin de 2-3 chapitres. Après seulement, on va comprendre qu'est-ce qu'on doit comprendre. Ça, c'est le piège. À chaque fois, dès que vous entendez une phrase du Baal Shem Tov, méfiez-vous. Parce qu'une phrase du Baal Shem Tov, on l'entend en général, c'est un aspect comme ça, c'est un... très simple, alors qu'en vérité, c'est extrêmement profond. Et là, on peut dire que les 12 chapitres qu'on va étudier de Shear Echoud Ve'Emouna, ça va être basé sur une ou deux phrases du Baal Shem Tov. D'accord ? Et on sur ça, 12 chapitres. Vous voyez comment... Il faut se méfier des phrases du Baal Shem Tov. Il faut bien faire attention à comprendre. Alors, la question qu'on va se poser avant de commencer le cours, c'est comment les gens croyaient avant le Baal Shem Tov ? Comment les gens faisaient avant le Baal Shem Tov ? Parce que comment les gens croyaient ? Les gens croyaient vraiment que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde et qu'il a laissé, il a abandonné la terre ? Ça, c'est ce qu'on va essayer de développer. On va essayer de le développer dans le chapitre qui va suivre. Mais de manière générale, une introduction importante qu'on a à savoir avant de commencer, c'est qu'il y a un principe qui dit dans Yeshaya, dans Isaïe, qui dit que Mipsari et Chézé et Loka. Akadosh Baruch Hu, il nous dit que si tu veux, ça, Akadosh Baruch Hu, il nous dit Mipsari et Chézé et Loka, ça veut dire que si tu veux voir Akadosh Baruch Hu, ça, ça va ?
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Allez, prenez une chaise. Là, il y a Yves, prenez une chaise là-bas, ça vous serez à l'aise. Alors, vous vous présentez ?
Oui, je m'appelle Eric Silam, je suis un peu nouveau dans le quartier. Donc,
ça va au Chabat, voilà.
Je vais être crétègue, ne
vous inquiétez pas. Alors, on se présente, moi c'est Mendy.
Oui. Oui.
Bon, en ce moment, je donne cours. Là, c'est Yaakov, qui pose des questions pertinentes. Là, c'est David, toujours avec sa joie. Là, c'est Yosef, toujours aussi avec des très bonnes questions. Et par derrière, c'est Yves.
Toujours
en retard. Non, pas du tout. Baruch Hashem, il prie beaucoup et il pose des très bonnes questions. Voilà, j'espère que Bezrat Hashem. Donc, on vient de commencer. Un nouveau sujet, vous tombez bien.
D'accord. Vous avez compris, vous posez les bonnes questions.
D'accord. Non. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les questions sont bonnes. C'est ça ce qu'il faut comprendre.
Pas
vrai. Je sers quelque chose ? Vous voulez du Coca, du Perrier ?
Non.
Ok. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'on va commencer le premier chapitre de Shear Echoud Ve'Emouna, qui va parler donc des concepts très importants de Emouna. Mais avant de commencer, on a expliqué deux choses. Première chose, on a expliqué que ce qu'on va développer dans les chapitres qui vont suivre va être l'approche du Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov comprend la création du monde. On va expliquer que le Baal Shem Tov a une approche très particulière. Selon le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde, l'humanité, l'univers, et il n'y a pas un seul instant dans lequel Akadosh Baruch Hu peut délaisser l'humanité. Ça veut dire que, comme on a donné l'exemple, on a dit juste quand même un verre qui est ici devant moi, qui a priori a déjà été créé par Dieu. Si Akadosh Baruch Hu déciderait un seul instant d'enlever son énergie, comme on va développer, ce verre cesserait d'exister. Il faut savoir que ça, c'est une innovation du Baal Shem Tov, comme on va le développer. Ça, c'est un premier point que je voulais dire avant de commencer. Deuxième point que je voulais dire avant de commencer, c'est que le prophète Yeshaya, le prophète Isaïe, il dit que Mipsari et Chézé et Loka. Je traduis littéralement. Ça veut dire de ma chair, Mipsari et Chézé et Loka. De ma chair, je peux voir Dieu. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de concepts que la Torah nous explique et qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à conceptualiser. Mais Akadosh Baruch Hu a pensé à ça, et c'est la raison pour laquelle il a créé notre corps et notre manière de réfléchir. En grande partie, notre structure ressemble beaucoup à la structure spirituelle des anges, etc., etc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça ? Il aurait pu ne pas le faire comme ça. Pourquoi il a fait ça ? De manière à ce que quand on est bloqué, en analysant simplement notre manière de vivre, notre manière d'exister, on va comprendre beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aussi dans les chapitres qui vont suivre. C'est-à-dire on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. Mais quand ce sera un peu compliqué, on essaiera de faire appel à des notions de la vie de tous les jours. Puisque, comme a dit Yeshaya, Mipsari, Echezé, Eloka, de ma chair, au travers ma chair, je peux retrouver Dieu. J'arrive à voir Dieu. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord ? Donc ça c'est, encore une fois, ça c'est aussi une nouveauté du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, très souvent, il rappelait ça à ses élèves. Il disait, vous êtes bloqué, pas de problème, ouvrez vos yeux, essayez d'analyser votre vie. Oubliez Dieu, entre guillemets. Ça veut dire, essayez maintenant d'analyser ce concept dans votre vie. Dans votre vie, dans votre corps. Et quand vous l'aurez compris, essayez maintenant d'appliquer ce concept aux choses spirituelles. Et là, tout de suite, on comprend. Pourquoi ? Parce que c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie. Bon. Donc maintenant, on va développer ce que le Baal Shem Tov explique. Donc, on commence par Aleph, chapitre 1. Il ramène un verset qui dit « Ve'yadata ayom » On le dit tous les jours dans le Alenu. « Ve'yadata ayom » Akadosh Baruch Hu » Il parle à Moshe Rabbeinu transmet au Bnei Israël, et il leur dit, Veyadat Hayom, tu sauras aujourd'hui, Va chez Votel et va Vera. Je te demande de prendre à cœur. Donc quand on dit prendre à cœur dans la Torah, ça veut dire que Dieu nous demande de réfléchir particulièrement et profondément. Qui Hachem, Hu a Elohim. Que Hachem, alors je dis Hachem, mais ça se lit Ado, virgule, Naï, pour pas dire le nom. Hu a Elohim, c'est Elohim. Alors tu vas bien réfléchir, tu vas comprendre que Hachem, c'est Elohim. Bashamaï Mimaal, dans le ciel en haut. Gal Haaret Mitachat, et sur la terre, en bas, En Od, il n'y a rien qui existe à part Akadosh Baruch. Voilà ce que Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, quelques heures avant de mourir, Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël, leur dit, sachez, réfléchissez bien, prenez bien votre temps, prenez à cœur, réfléchissez, comprenez que Hachem, Ado, Naï, c'est Elohim. Ça veut dire quoi? C'est deux noms de Dieu, c'est Hachem, c'est le mort, t'aurais pu me dire le contraire, ça veut dire quoi? Il dit pas plus. Attendez, il continue. Il dit, et sachez que dans le ciel en haut et dans la terre en bas, il n'y a rien à part Dieu. Retenez bien. Alors la Gemara Zaken va poser une question à Tassam, il dit, mais je comprends pas. C'est ça le message que Moshe Rabbeinu a donné au Bnei Israël juste avant de partir? Et c'est évident, ça demande à n'importe quel enfant, demande-lui qui c'est qui existe à part Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a que Dieu. En haut, en bas. Hein, comment ils disent, Hachem est ici, Hachem est là. Hachem est partout à la fois, hein, c'est des choses que les petits enfants ils connaissent. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Donc si on étudie ce passage uniquement avec la traduction, on ne comprend pas. Encore une fois, c'est exactement le même piège qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les phrases comme ça, c'est exactement le même piège qu'on a avec les phrases du Baal Shem Tov. C'est un peu le même style. C'est-à-dire que vous avez une phrase ici, la phrase on croit qu'on l'a compris, on croit qu'elle est évidente, on croit qu'elle est très simple, alors qu'en vérité on peut passer des cours et des cours dessus. Et la phrase, elle est très simple. Il dit, tu te rappelleras que Hachem, c'est Elohim, mais qu'il y a un seul Dieu, il n'y a rien à part lui en haut, il n'y a rien à part lui en bas. Oui, d'accord, on a compris, ça va, on savait déjà. Eh ben non. On va devoir développer. Avant de développer, il pose la question qu'on a posée. Il dit, mais je comprends pas. Vetzarich Lehavin, il faut comprendre. Puisque ça, c'est le texte qu'on vient de commencer, qui va durer 12 chapitres, s'appelle Shar Ayichud Va'emuna. Je le traduis, ça veut dire la porte, puisque le Tania a été découpé en portes, c'est des portes, hein, comme des portes pour accéder à différentes sections. La porte qu'on va accéder aujourd'hui, c'est la porte de l'unicité et de la Emouna. Donc la Emouna, on sait ce que c'est. Enfin, on va apprendre ce que c'est.
Emouna, c'est la foi. D'accord,
hein. Emouna, c'est la foi. Et le Yichud, ça veut dire l'unicité, le fait qu'il y a un seul Dieu. Et là, l'Admor HaZaken va expliquer, quand on demande aux gens, on dit, est-ce que tu sais qu'il y a un seul Dieu? Il dit, bien sûr, je sais qu'il y a un seul Dieu. En vérité, on est très très loin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a un seul Dieu. On va voir comment l'Admor HaZaken va nous amener une image complètement nouvelle. Donc, quel est le texte de référence qui parle de l'unicité de Dieu? C'est ce texte. Il te dit, tu sauras. Hachem, c'est Elohim, il n'y a rien d'autre en haut, il n'y a rien d'autre en bas. Mourazakan, tu dis, tu crois que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu veut te dire juste avant de mourir? Il a trouvé que ça à dire. Il s'attendait à un message très fort. C'est basique, ça. C'est bateau, c'est évident. Mais Tsarich Lavin, il faut comprendre. Vrita Leal Datecha, est-ce que on aurait pu penser, Sheyesh Elohim, Nishre, Bamaï, Mitarat, la Haret? Est-ce que quelqu'un aurait pu penser qu'il y a un autre Dieu? Il y a un autre Dieu au-dessus des eaux? Quand je t'arrive là, ir al kar vachevotel et vavera. Vous savez qu'il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Comme ça, on a pris dans la paracha Bereshit. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est-à-dire quoi? Tu crois qu'une personne va se dire, bon, ici, sur la terre ici, je vois notre Dieu, mais en bas, je ne sais pas qui il y a. En haut, je ne sais pas qui il y a. C'est évident que personne pense comme ça. À qui il parle, mon cher Benoît ici? Il parle à des gens que ça fait déjà 40 ans qu'ils étudient. C'est pas des imbéciles. Donc, quel est le message que mon cher Benoît veut leur dire? Surtout qu'on sait que le reste des messages que Moshe Rabbeinu a donné à Israël, les autres messages, c'était des messages très très forts. Des messages autour de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, mais des messages très forts. Ce message nous paraît basique. Donc il y a un problème. S'il nous paraît basique, ça veut dire qu'on ne l'a pas compris. On est d'accord? Je vous ai dans les mots. Non, tu n'es pas dans la même page. Alors, quelle page on est? Voilà, traduction. Ah, ici. Oh, t'as mis du Perrier, je sais que t'aimes bien le Perrier. C'est ça, hein? Donc ça, c'est la question d'Edmond Razakani, je comprends pas. Il dit, j'ai tellement besoin, va chez Votel et va Vera, de prendre à cœur, de réfléchir, mais c'est évident. C'est pas shoot qu'il n'y a personne à part à Kadosh Baruch Hu. Quel est le grand chidouche, quelle est la grande nouveauté que vient nous apprendre ici Moshe Rabbeinu? Alors pour comprendre ça, l'Admor HaZaken va développer. Il va nous amener d'abord plusieurs éléments Et c'est seulement avec ces plusieurs éléments qu'il va amener ici qu'on va comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. Inekti. Il y a un autre verset dans lequel il est écrit, et là on va ramener la fameuse phrase du Baal Shem Tov. Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Vashamayim. Ça vous dit quelque chose ce verset?
Oui.
On le dit quand?
Hein?
Rosh Hashanah ou Kippour?
Kippour. Mais les deux alors.
Peut-être Rosh Hashanah, mais en tout cas, moi je sais que je l'entends. C'est pas... Tu la rabats, on le dit pas, mais en tout cas, je sais que je l'entends. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ce verset? Traduction. Est-ce que vous savez ce qu'il dit ce verset? Léolam, à jamais, Hachem, Dieu, Dvarcha, ta parole, Nitzav, est posée, Vashamaim, dans les cieux. Traduction littérale, ta parole, Dieu, est toujours posée dans les cieux. Le sens, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'apparemment, on dit que la parole de Dieu est toujours présente dans le ciel. Ça, c'est un verset. Un verset apparemment très important, puisqu'on dit à Yom Kippour, c'est un verset très important. Alors regardez comment le Baal Shem Tov va expliquer ce verset. Avec cette explication du Baal Shem Tov, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. Parce que vous savez, c'est très souvent comme ça, il y a des choses que Moshe Rabbeinu a dit, que sur place on n'a pas compris. Et c'est seulement après, avec le temps, quand il y a eu des prophètes qui ont développé certains concepts, on a compris ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. C'est très souvent comme ça dans la Torah. Parce qu'il y a quelque chose qu'un grand Rav ou un grand Tzadik qui dit, sur place on ne le comprend pas, et après, des générations après, il y a un prophète qui va dire quelque chose, et là on va commencer à dire, ah c'est là, c'est ça ce que voulait dire le premier prophète? C'est ce qui va se passer ici. On a eu Moshe Rabbeinu qui a dit quelque chose, sur place je pense qu'apparemment les gens n'ont pas spécialement compris ce qu'il voulait dire. Après on a eu un prophète par derrière qui est passé, Isaïe, d'accord? C'est amené dans Tehilim aussi. Donc un prophète qui est passé par derrière pour expliquer ce que Moshe Rabbeinu voulait dire. Et après on a le Baal Shem Tov qui est venu par derrière pour nous expliquer qu'est-ce que le verset de Tehilim voulait dire. Ça nous fait trois étapes. Et maintenant nous on a par derrière le Tania qui nous explique qu'est-ce que le Baal Shem Tov voulait dire. On va aller très loin comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Le problème c'est qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes alors qu'en vérité c'est des choses qui sont très compliquées. Alors comment le Baal Shem Tov explique ce pasouk de Tehilim? Leolam Hashem Vacha Nitzav Vashamaim. Donc on a dit que c'est basé sur Isaïe, mais c'est également le psaume 119. Vous le retrouvez dans le psaume 119. Ça veut dire quoi quand on dit que la parole de Dieu est toujours présente dans les cieux? Le Baal Shem Tov va expliquer. Qui? Quand on dit que la parole de Dieu est présente, de quelle parole on parle? Si je vous dis la parole, d'accord? Dans quel cas on a dit que Dieu a parlé? Quand Dieu a parlé? Toi tu dis les 10 commandements? Toi tu dis Dieu a parlé pendant les 10 commandements? Il a dit?
Dans la Torah?
Non, vas-y.
Je pense que c'est comme non, au départ tu n'auras pas de Dieu.
D'accord. Donc toi tu dis que la parole de Dieu qui reste, c'est la parole des 10 commandements. Bon, ça veut dire quoi que la parole des 10 commandements elle reste dans les cieux? Elle reste dans les airs. Ça me fait quoi? Qu'est-ce que tu dis, Lionel?
Le commandement de Dieu il maintient le monde comme le jour où il a créé. En fait.
D'accord, mais c'est quoi la parole alors?
Comme si qu'il recréait tous les jours.
La parole, la création, très bien. Alors voilà comment le Baal Shem Tov explique.
C'est-à-dire qu'elle est renouvelée chaque fois.
Baal Shem Tov, il nous dit, on se rappelle bien que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous, on crée avec l'action, alors que Dieu n'a pas créé avec l'action, il a créé avec sa parole. Ça, c'est écrit dans la paracha Bereshit. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. On n'a pas dit Dieu dit que la lumière soit, et il fit la lumière. Non, et la lumière fut. C'est-à-dire que la parole a créé. D'accord, etc., etc. Regardez comment Baal Shem Tov explique. Il dit que Dvarcha, la parole de Dieu, la parole que Dieu a employée pour créer le monde. Par exemple, Dieu a dit Yehi Rakia Betor Hamaim. Vous savez que quand le monde a été créé, au début, il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait pas de ciel. Il n'y avait que de l'eau. C'est comme ça que la paracha Bereshit nous raconte. Dieu est venu, a dit que dans cette masse d'eau, qu'on forme un ciel. On a formé un ciel. Après, on a fait la différence entre le jour et la nuit. D'accord? Après, on a fait la différence entre la terre sèche et la mer. D'accord. Alors, il dit comme ça le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a une approche très intéressante. Il dit, par exemple, on va dire que Dieu a dit une phrase, il a dit que le poisson soit, et le poisson fut. Le Baal Shem Tov, il nous dit, tu veux savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un poisson ici? Qu'est-ce qui fait vivre le poisson? C'est la même parole de Dieu que Dieu avait dit. À tout début de la création du monde, il a dit que le poisson soit. Et quand Dieu a dit que le poisson soit, avec cette parole, tous les poissons jusqu'à la fin des temps sont en train de tirer leur énergie. Et donc c'est pour ça que Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Vashamayim. La parole de Dieu est toujours présente dans le ciel, sous-entendu c'est toujours elle qui continue à créer. Et si Dieu s'arrêtait, ne serait-ce qu'un seul instant de parler, de créer, le monde s'arrêterait d'exister. Donc là on arrive à ce qu'on a expliqué au début du cours, tout à l'heure. Au moins, l'approche du Baal Shem Tov, c'est qu'il n'y a pas un seul élément dans le monde qui est indépendant. Sachez que c'est une approche qui est vraiment nouvelle. Parce que, par un des plus grands penseurs, enfin, sans citer, de l'époque du Baal Shem Tov, il disait, par exemple, regardez, juste pour vous imaginer, il disait, moi, je ne peux pas concevoir que Dieu se trouve dans une toilette. Il y avait un grand rave, et c'était d'ailleurs beaucoup de rabbins qui pensaient comme ça. Il dit, je veux bien que Dieu se trouve partout, mais il y a des endroits dans lesquels Dieu ne se trouve pas. C'est logique. Il dit, moi, je ne peux pas concevoir que Dieu se trouve dans une toilette.
C'est pour ça qu'on met pas de mesure.
Moi, je ne peux pas concevoir que Dieu se trouve dans un endroit dans lequel on fait des choses impures. Voilà, comme dit David, la preuve n'est pas de mesure. Viens le Baal Shem Tov, dit, non, c'est pas possible. Tu dis, même le mal doit constamment être créé par Dieu. Pourquoi? Et c'est ce qu'il va développer ici. Parce que si la parole de Dieu, elle n'est pas Léolam Hashem Vacha Nitzav Vashamaim, si la parole de Dieu n'est pas constamment dans le ciel, n'est pas constamment en train de générer la chose s'arrêterait d'exister. Pourquoi le Baal Shem Tov a expliqué comme ça? Ça, on va devoir l'expliquer. Pourquoi il est parti chercher ça, le Baal Shem Tov? Pourquoi le Baal Shem Tov ne dirait pas, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai façonné une bouteille, la bouteille est façonnée. Je peux la poser, il n'y a plus besoin de mon intervention, la bouteille est là. Pourquoi Dieu ne peut pas faire la même chose? Il ne peut pas créer un monde qui tourne.
C'est valable pour l'humanité d'accord aussi. Hein.
Ah ben oui, c'est valable pour tout. Baal Shem Tov, il n'y a pas un seul élément de l'humanité qui est indépendant. De l'univers qui est indépendant, ça n'existe pas. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors déjà, le Baal Shem Tov, il n'a pas inventé, il se base sur un verset. Le verset qui nous dit que la parole de Dieu est toujours présente. Il dit, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la parole qui a généré la création du monde. Alors on va lire d'abord dans les mots et on va développer. Donc je reprends inactive. Vous savez inactive, c'est je crois la quatrième. Inactive. Pour comprendre ça, il est écrit. Leolam, Hashem, Dvarcha, Nitzav, Vashamay. Pour comprendre ça, on va amener le commentaire du Baal Shem Tov sur le pasouk que Dieu nous dit. Leolam, Hashem, Dvarcha, Nitzav, Vashamay. On s'adresse à Dieu, on lui dit que ta parole, Dieu, est toujours présente dans les cieux. C'est quoi la parole? On a expliqué. Tevot, Veotiot, Elou. Pardon. Ki Dvarcha, ou Pirach, Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a expliqué. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit que dans cette masse d'eau, on forme un ciel. C'est votre veotiot elou, les mots que Dieu a employés. C'est ce qu'on va expliquer. Dieu a dit yehi rakia betor amaim. Il y a eu des mots très précis. Eh bien, explique le Baal Shem Tov, c'est ces mots-là qui vont continuer à générer le monde. Attention, là on va arriver au concept de gimatria, etc. D'accord, attention.
Le verset, il dit aussi, Bachamim, ou va arrête. Il va faire, non?
Non, là, pas dans ce verset.
Pas le même?
C'est un autre verset. Là, ce verset, il dit, Yehirakia betor hamaim. Il dit que le ciel se forme dans l'eau. C'est comme ça que le pasouk dit. Donc, il y a eu des mots qui ont été employés ici. Par exemple, le mot Yehi, c'est Yud, He, Yud. Rakia, c'est Resh, Kouf, Yud, Aïn. Il y a eu des mots qui ont été employés. Mais explique le Baal Shem Tov, c'est ce qu'on va développer dans ce chapitre. Chaque mot véhicule une énergie. Et chaque combinaison de mots véhicule une combinaison d'énergie. Et la combinaison d'énergie qu'il faut pour générer le ciel se trouve dans le mot de Yehirakia Betor Hamaim. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a un ciel, c'est parce que cette combinaison continue toujours à exister. Si Dieu arrêterait pour un seul instant cette combinaison, le ciel arrêterait d'exister. Donc ça explique le Baal Shem Tov. Donc c'est une approche très nouvelle. C'est une approche qui est très nouvelle, puisque d'ailleurs, avant le Baal Shem Tov, personne ne l'expliquait comme ça.
On est en perpétuelle création.
Exactement. Le monde est constamment créé. Constamment régénéré. Et pourtant, on ne le ressent pas. Pourtant, je ne sens pas qu'entre il y a une seconde et il y a maintenant, j'ai été régénéré. Je ne sens pas du tout.
Donc ce sont nos prières qui font tenir bon.
Oui, d'accord. Non, mais,
c'est nous qui renouvelons.
Le problème, c'est quoi? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on ne voit pas qu'on est recréé.
Si on arrêtait de prier, on le verrait.
Alors, mais quand je dis qu'on est recréé, ça ne veut pas dire qu'on est détruit à chaque instant. Attention, j'ai pas dit ça. Je dis qu'on est maintenu en vie à chaque instant. C'est un petit peu comme si vous avez une personne, d'accord, qui vit sous, avec assistance respiratoire. D'accord, qu'il vit, il peut vivre tranquillement, il peut vivre des années comme ça. Mais si on arrête l'assistance respiratoire un seul instant, c'est fini. Ben c'est pareil. C'est quoi l'assistance respiratoire d'Akadosh Baruch Hu? C'est les mots avec lequel il a créé le monde. Alors avec ça, ça nous permet de comprendre beaucoup mieux. Quand on dit par exemple que Dieu a parlé, ça veut dire quoi Dieu a parlé? Dieu a parlé et le monde suit, ça veut dire quoi Dieu a parlé? Là on va expliquer que derrière chaque mot d'Akadosh Baruch Hu se cache une combinaison. Et que les combinaisons, c'est le mode que Dieu utilise pour créer le monde. De la même manière que moi, par exemple, si je voudrais créer cette table, je voudrais façonner cette table, je vais devoir utiliser une combinaison de matériaux et une combinaison d'idées. C'est une combinaison, d'accord ? Donc un objet, c'est une combinaison d'idées, de matériaux, etc. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, c'est une combinaison de l'être, une combinaison d'énergie. Et cette combinaison est constante. Si elle s'arrête un seul instant, le monde arrête d'exister. Et donc chaque élément de la nature a sa combinaison qui lui correspond. Ça, on va développer. Par exemple, vous prenez, ça, on a parlé Shabbat, avec deux lettres, vous avez combien de combinaisons ?
Deux.
Deux, d'accord. Avec quatre, avec trois lettres, vous avez combien de combinaisons ?
3 fois 2 fois 1.
9.
6. Avec 4 lettres, vous avez combien de combinaisons ?
4 fois 3 fois 2 fois 1.
24.
Avec 5 lettres, vous avez combien de combinaisons ?
5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1.
Avec 6 lettres, vous avez combien de combinaisons ?
5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1.
Combien ? 720. 720. Avec 7 lettres ?
7 fois 6 fois 4.
Vous voyez comment ça monte ? Ah ben, imaginez-vous que si on prenait toutes les lettres qu'il y a, j'ai pas compté, hein, je ne sais pas où vous avez compté. Mais prenez toutes les lettres qu'il y a dans le Chumash Bereshit.
5040.
Dans le Chumash Bereshit. On passe un Chumash, s'il te plaît, juste un vidéo comme ça.
Tu ne fais pas mon factoriel par cœur, quoi.
C'est pas des facteurs, c'est pas des combinaisons spéciales, ça. C'est
les suites. 8, 7. Alors. Voilà. On a ici trois pages hein, dans le Chumash. Si vous voulez voir dans le Chumash, on a trois pages qui parlent de la création du monde. D'accord ? Donc c'est en fait tout le Perek Aleph, tout le premier chapitre. Après c'est Vayichulu Hashem Yivarech, c'est déjà fini. Et si vous prenez toutes ces lettres-là, imaginez combien de combinaisons on peut faire. Combien de combinaisons on peut faire avec toutes ces lettres-là ? Je sais pas, il doit avoir ici au moins, je sais pas, vu d'œil, il doit avoir au moins ici 2000 lettres, sans problème. Au moins. Je ne suis pas journaliste, mais d'avoir au moins, tu sais, les journalistes.
Il n'y a pas assez de zéro.
C'est à l'infini. Eh bien, c'est à l'infini, ça correspond à quoi ? Ça correspond au nombre de combinaisons, qu'on peut trouver dans la nature. Tout ce qui fait notre nature. On va développer ensemble, parce que ça, c'est assez compliqué. Donc, le Baal Shem Tov explique, « Umlubashot betor kol harakim leolam lachayotam ». Cette énergie que Dieu, donc la parole de Dieu que Dieu a créée lorsqu'il a créé le monde, cette énergie est toujours là et elle sera toujours là pour le faire vivre. Kézirtiv, comme c'est écrit, Udvar Elokenu Yakum Leolam. C'est écrit dans Isaïe. Le prophète Ishaïa a dit, la parole de notre Dieu restera à jamais. Alors les gens, quand ils lisent Isaïe, ils disent la parole de notre Dieu restera à jamais, ils pensent que ça veut dire, vous savez, quand on dit ma parole restera à jamais, ça veut dire on m'écoutera toujours. Alors qu'en vérité, on est complètement à côté de la plaque. Bah, Shem Tov dit non, c'est pas ça ce qu'il veut dire Isaïe. Isaïe, il ne veut pas dire la parole de notre Dieu restera toujours là, il n'est pas là en train d'arranger les foules. Quand il dit que la parole de notre Dieu restera à jamais, ça veut dire que la parole de Dieu que Dieu a dit au moment de la création du monde, elle restera à jamais parce que si elle s'arrêterait un seul instant, le monde s'arrêterait d'exister. Voilà ce que le prophète Isaïe voulait dire. Comme ça explique le Baal Shem Tov. On a aussi un autre texte hein, qui est très connu, on le dit tous les matins dans la Tfila, Emet Veyati, on dit Udvarav Chaim Vekayamim. Qu'est-ce qu'on dit le matin dans la tfila, juste après le chemin? On dit Emes, Veyati, Venachon, Nekayam, etc. D'accord, donc il y a 15 termes pour dire que 15 termes différents pour dire que ce que Dieu dit c'est vrai. Et après qu'est-ce qu'on dit? On dit Udvarav, ses paroles. Chaim, ils sont vivants. C'est vrai d'abord qu'une parole de Dieu est vivante. Je traduis d'abord. Vekayamim, ils sont existants. Nehemanim, ils sont fidèles. Venechemadim, Laad. Et ils sont charmantes, Laad ou Lolmeolamim, jusqu'à jamais. Je crois qu'une parole est charmante, une parole est vivante, une parole est présente. C'est fini la parole. Dieu a dit, il a parlé, c'est fini. Ben là, je vous avais dit, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est de croire qu'une parole est présente, c'est-à-dire que c'est la parole qui génère, c'est la parole qui crée. Et on a besoin de cette parole constamment, puisque si cette parole s'arrêterait, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'est-ce qui se passerait ? Le monde s'arrêterait d'exister, tout s'effondrerait. Et il le dit clairement dans les mots. Ki ilu ayu aotiot mistalkot kerega chazveshalom. Si les lettres s'en allaient, ne serait-ce qu'un seul instant. Vous savez, dans l'image de la Torah, on a l'image des lettres qui s'envolent. Vous savez, on dit que lorsque Moshe Rabbeinu a cassé les premières louchotes, on dit que l'image, les premières tables de la loi, on dit que l'image qu'on a vue, c'est des lettres qui s'envolent. C'est une image qui revient souvent, les lettres qui s'envolent. On dit par exemple qu'il y a un certain tzadik, lorsqu'il a été brûlé, un des dix qui ont été brûlés à Rome, on dit que lorsqu'on l'a vu brûlé, on a vu des lettres monter dans les cieux. C'est un terme qui est, c'est une expression qui est très connue. Alors il dit comme ça, il dit, si les lettres partaient ne serait-ce qu'un seul instant, Vechozrot limkora mais donc elles revenaient à leur source. Ayukol Hashemaim Ain Zefes Mamash. Tout ce qui existe le ciel, puisque là on a parlé du ciel, on a dit Dieu a dit que le ciel soit. Eh bien si Dieu arrêterait un seul instant cette combinaison, qu'est-ce qui se passerait? Le ciel s'arrêterait d'exister. Ain Zefes Mamash. On serait revenu à l'état zéro comme si qu'il n'y a jamais rien eu sans trace. Vous savez, il y a une fois, il y avait une discussion entre des rabbins. Hein. Comment il fait Dieu s'il veut détruire le monde? Qu'est-ce que vous pensez? Attendez, comment il fait? Alors, il y a un rabbin qui a dit, si Dieu veut détruire le monde...
Il nous confisque la parole.
Il va exploser le monde, bombe atomique, etc. Et tout. Mais à chaque fois, il y avait un autre rabbin qui le bloquait. Il y avait un autre rabbin qui le bloquait, justement. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, mais je comprends pas. Et on sait très bien que dans la nature, rien ne se perd.
Tout
se transforme. Enfin, il n'a pas dit dans ces termes. Hein. Mais ça veut dire que même si tu vas exploser, etc., mais tu peux pas te détruire. Dans la vie, on peut pas détruire. Impossible de détruire. Tu peux changer de stade. C'était ce stade-là, ça passera à un autre stade. Mais tu peux pas te détruire. Alors comment Dieu, il fait s'il veut détruire le monde?
Il fait rien.
Il nous confie.
Il fait rien, tout simplement.
Quelle était la bonne réponse?
Il fait rien.
La bonne réponse, c'est qu'il arrête de faire.
Et voilà.
Quand il arrête de faire, il restera rien. Il n'a même pas besoin de détruire. Ben oui. Ça laisse ses traces. D'accord. Dieu ne fait rien, c'est ce qu'on va développer ici. C'est ce qu'il dit de Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dit, si Dieu arrêtait son énergie ne serait-ce qu'un seul instant, tout s'arrête. Mais c'est pas que tout se détruit, ça s'explose, explosion, etc. Non, on n'a pas besoin de tout ça. S'il arrête, ça n'existe plus. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme j'arrête de parler, parce que ça arrête de parler, c'est fini. Il parle plus. Comment Kodem? Alors, il appuie bien pour pas qu'on fasse d'erreur. Ve'ayu kelo ayu klal, ça veut dire que tout ce qu'il y a, c'est comme si ça n'aurait jamais existé. Ou kmo kodem ma'amar yehirake mamash. C'est comme si on serait revenu exactement au même état que le monde était avant que Dieu ait dit que le ciel soit. Ça, c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Jusqu'ici, c'est ce que le Baal Shem Tov a dit. Maintenant, on va devoir expliquer ce que le Baal Shem Tov a dit. Donc, je reprends. On a dit, le verset a dit... Dieu, Moshe Rabbeinu, avant de partir de ce monde, qu'est-ce qu'il dit au Bnei Israël? Il dit, sachez, rappelez-vous, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en haut, il n'y a pas un autre Dieu en bas. On a dit, franchement, on s'attendait à un message plus consistant, quoi. C'est un message bidon, ça, c'est évident. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est évident, pas besoin de Moshe Rabbeinu pour nous dire. Pour répondre à cette question, on a amené un autre verset. Un autre verset qui dit, Léolam, Hashem, Vacha, Nitzav, Vachamaim. Dieu, il dit, enfin, c'est David Amelech et Yeshaya qui disent que la parole de Dieu est toujours présente. Pourquoi la parole de Dieu est toujours présente? Là est venu le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov a dit que la même parole que Dieu a utilisée lorsqu'il a créé le monde, cette parole correspond à de l'énergie. Et cette énergie est là constamment pour générer et pour créer le monde. Et si cette parole s'arrêtait, ne serait-ce qu'un seul instant, le monde cesserait d'exister. Il reviendrait tout de suite au même état qu'il était avant que Dieu a parlé. C'est ça qui est venu de détruire quoi que ce soit. Là, l'exemple qu'il a amené le Baal Shem Tov, c'était l'exemple à propos du ciel. Il dit, Dieu a dit que le ciel soit, donc la parole de Dieu. Si Dieu a arrêté, ne serait-ce qu'un seul instant cette parole, le ciel cesserait d'exister. Mais on comprend bien sûr. Vechen, il en est de même. Bechol, abroui, vous avez dans les mots, je sais pas quel il en est.
Au milieu.
Vechen, pareil, au milieu de la page. Vechen, pareil. Il en est de même. Bechol, abroui, chez Bechol, la olamot. Il en est de même pour toutes les créatures qui se trouvent dans tous les mondes. Quand je dis tous les mondes, ça veut dire les sphères spirituelles, les sphères célestes, les malachim, les tzadikim, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est, par définition, tout ce qui est créé. Tout ce qui est créé, s'il est créé, ça veut dire qu'il y a une parole de Dieu qui est en train de le générer constamment. Et si Dieu décidait d'arrêter de générer cette chose-là, ne serait-ce qu'un seul instant, ben ce que Dieu a décidé d'arrêter de générer, ça s'arrête tout de suite de générer. Donc c'est un principe qui est applicable pour tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, dans les sphères célestes, ici-bas, va filou à Aretz, c'est la Zoa Gashmit, même notre terre, ou Prinat de même mamash, même si on prendrait le minéral, parce que bon, on va dire non, attends, je comprends, la vie, je comprends que Dieu arrête de dire, par exemple, il y a un animal qui est en train de courir, Dieu dit, bon, j'arrête de le faire vivre, il s'arrête de vivre, mais sa carcasse, elle reste toujours là. Non, bah je te dis, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il dit même le domaine, même le minéral. Qui le minéral, par définition, n'a pas de vie, normalement. Nous, ce qu'on sait, le minéral, c'est qu'il bouge pas. Eh bien, te dit le Baal Shem Tov, si Dieu prendrait quelque chose qui est minéral, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est inerte, et il lui dit, tu arrêtes de vivre, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Eh bien, ici, il n'y a plus de verre, c'est comme la magie. Alors je sais qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a la physique, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui on comprend, hein, Yaakov, si on nous dit les termes en physique, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que qu'est-ce qu'il y a en vérité, la matière, ce qui est dur en vérité, c'est, enfin de manière générale, c'est composé de quoi ?
C'est des particules d'énergie.
C'est
des particules d'énergie.
C'est des particules d'énergie. D'accord, on le sait, tu m'avais donné le terme une fois.
Quarks.
D'accord, c'est des quarks, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui qu'on est capable d'analyser en physique, on sait qu'en vérité, il n'y a pas de matière. Non, il écoute. Non, parce qu'il a déjà étudié, on a déjà étudié ça une fois ensemble. Là, c'est la révision pour lui.
101e fois.
La matière n'existe pas en vérité. Et qu'est-ce qui fait que la matière existe ? C'est le mouvement. On est d'accord, c'est ça ?
La vitesse.
D'accord, la vitesse. C'est la vitesse des électrons qui font que quand tu touches, bah, t'as l'impression que c'est dur. Mais en vérité, il n'y a rien, c'est du vide. On est d'accord ? C'est comme ça qu'on l'explique en physique. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la physique. Eh ben, bon, là, il ne le présente pas sous cet angle-là. Mais en tout cas, la physique nous permet de mieux comprendre ce qu'il veut dire ici, que si Akadosh Baruch Hu décidait d'arrêter de générer le monde, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça s'arrête de tourner, puis ça s'arrête de tourner automatiquement, c'est fini, ça s'arrête d'exister. Exactement comme si c'était avant la création du monde. Même s'il s'agit du minéral, même le minéral, ilou, dans les mots, ilou ayu, mistalkot mimena karega chas veshalom. S'il ne serait-ce qu'un seul instant, chas veshalom, que Dieu en préserve, parce que c'est la catastrophe, si Dieu préserve un seul instant, aurait quitté les lettres à Otiot Ma'asara Mamarot, les lettres des 10 paroles de Dieu, puisque Dieu a créé le monde avec 10 paroles, et donc les combinaisons qu'on retrouve dans la paracha Bereshit. Shebaem nivret aret veshishet yeme Bereshit, aïta roseret la in vefes mamash, la terre serait revenue à l'état initial. Donc vous voyez que c'est très très important, les mots qu'on retrouve dans la paracha Bereshit. Et c'est pour ça que la Torah nous le raconte. Parce que finalement, qu'est-ce que ça nous change comment ça a été créé ? Ce qui compte, c'est que c'est là. Qu'est-ce que ça change comment ça a été créé ? C'est très important parce qu'au travers de ces mots, les gens qui savent lire entre les lignes sont capables de savoir de quoi chaque chose a été générée. On verra après que, par exemple, on dit que Adam Arishon, Dieu lui a donné une mission très importante. Il lui a dit, toi, tu vas donner les noms aux animaux. Bon. Alors le Midrash pose la question, il dit, mais donner des noms, c'est facile. Imaginez-vous que moi, maintenant, voilà, vous m'amenez dans une salle et on me présente un nouvel objet qui n'a pas de nom. On dit, donne-lui un nom. Invente, vas-y, déroule-toi. Bah, je vais inventer, même un enfant, il peut faire ça. Les enfants, ils inventent, tout le monde peut inventer. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier et pourquoi la Torah nous dit, t'as vu, Adam Arishon, il a été capable, une grande neshama, il était capable de donner des noms aux animaux. Waouh. Qu'est-ce qui est tellement particulier de donner des noms ? Le Midrash explique, il dit qu'en vérité, la force d'Adam Arishon, c'est que les noms qu'il a donnés à chaque animal correspondaient à la combinaison, d'accord ? À la combinaison qu'il fallait pour créer un animal. Par exemple, pour créer un lion, comment on écrit un lion en hébreu ? Aleph, Resh, Yud, He. Il y a une combinaison de 4 lettres. Pourquoi il a appelé comme ça le lion ? Enfin, il n'a pas appelé le lion Hamor. Hamor, c'est un âne. Pourquoi il n'a pas appelé comme ça ? Parce que la force d'Adam Arishon, c'est qu'il a été capable de faire correspondre les noms des choses, les noms des éléments, à la combinaison qui génère cet élément. Et la force d'Adam Arishon, c'est qu'il a été capable de voir ça. De dire, ah, là il y a un lion, il a été créé par telle combinaison. Sa combinaison, c'est Aleph, Resh, Yud, E. Donc, Arié, le lion. Allez, suivant. Ah, c'est très très fort. Être capable de voir les combinaisons. Ça, c'est la force d'Adam Arishon. Mais avec ça, on comprend, hein, qu'il n'y a rien dans le monde qui se crée tout seul. Ça se crée pas tout seul. Tout ce qui se crée, c'est une combinaison de lettres. Et toutes les combinaisons possibles et inimaginables sont déjà écrites. Après, il faut savoir les lire. Ça, c'est une autre question. Il faut savoir que la paracha Bereshit, le premier chapitre de la paracha Bereshit, c'est un chapitre très important. C'est un chapitre clé pour les tzadikim. Tous ceux qui font du Zohar, etc., enfin, mais du Zohar très poussé, ça, c'est un chapitre clé pour comprendre l'humanité. Avec ce chapitre-là, on peut comprendre tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge et où il va aller, qu'est-ce qui vient, d'où il arrive, où il va. Parce que t'as sa combinaison. T'as la clé. Premier chapitre de Bereshit.
La clé du bonheur.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont l'habitude, c'est une ségoula, il y en a qui ont l'habitude de répéter, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, enfin c'est une ségoula que j'ai pas vu tellement, de répéter la première paracha de paracha Bereshit. Bereshit, bara Elohim, Hashamayim va'ta'aretz, enfin on l'apprend par cœur à l'école. Va'aretz, tetatou, vavou, vokhosher, rakletom, vokh Elohim, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une paracha qui est extrêmement concentrée. Toute la Torah est extrêmement concentrée, mais celle-là, elle est particulièrement concentrée, parce que si on va s'amuser à faire des combinaisons avec chaque lettre, on peut aller très très loin. Ça, sur qui on se base ? Sur un commentaire du Baal Shem Tov. Vezeu shekata v'arizal. Avec ça, on va comprendre ce que l'Arizal a écrit. Shegam bedomem mamash. L'Arizal nous dit quelque chose avec ce qu'on a expliqué ici. Que finalement, même le minéral est généré constamment par une énergie de Dieu. Donc ça veut dire, si on comprend bien, même le minéral a de l'énergie. que ça il n'existe rien du tout dans le monde qui n'ait pas d'énergie. Donc ça veut dire qu'en vérité, tout est de l'énergie. Alors avec ce que le Baal Shem Tov...
C'est pas le minéral qui est de l'énergie.
Bah si.
Non.
Le minéral vit grâce à l'énergie.
Voilà, d'accord.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a l'énergie dans le minéral. Ah oui.
Non, donc c'est l'énergie qui fait le
très bien.
Minéral, mais c'est
d'accord.
Pas le minéral. Qui
donc il y a une énergie autour, enfin autour du minéral, on est d'accord. C'est ce que le Baal Shem Tov a dit. Avec ça, on va comprendre ce que le Harizal a dit. D'accord, le Harizal, c'est quelques centaines d'années avant le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, il nous dit, « Shegam et demain mamash, même dans le minéral, mamash. » Ça veut dire ce qui est le plus minéral, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas.
D'accord,
le plus basique. Parce que bon, tu vas venir par exemple les plantes, ça bouge. D'accord, tu vas venir par un morceau de bois. Bah, un morceau de bois, ça évolue avec le temps. C'est vrai que c'est... Donc c'est pas vraiment du... C'est pas du minéral, c'est juste qui évolue avec le temps. Ça évolue, ça peut se décomposer, etc. Mais tu as des choses qui ne se décomposent pas. Enfin, ou bien qui se décomposent très 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 lentement. Comme tu prends des pierres, tu prends des choses comme ça, des choses que... Tu reviens dans 1000 ans, ça sera pratiquement la même chose. Donc on a l'impression que c'est des choses qui n'ont pas de vie. Qui sont là, qui sont inertes, qui ne vivent pas. Eh bien, le Harizal, il y a 500 ans, il a déjà dit. Il a dit, « Chez Gambé de même mamache !» Même dans ce qui est de même, ça veut dire ce qui est vraiment minéral. Et quand on n'a pas plus minéral que ça, ça veut dire vraiment, ça bouge pas, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Kemo avanim, comme des pierres, ve'afar, ou de la terre, ou maïm, et de l'eau. Donc c'est du minéral à 100%. Yesh prinat nefesh vechayet ruchanit. Et bien le Har, il disait à ses élèves, il leur disait, sachez que même dans des choses comme ça, il y a une âme. Et pas seulement une âme, il y a une vitalité. Une vitalité spirituelle. La vitalité matérielle, il n'y en a pas. D'accord, parce que la vitalité matérielle, ben, ça bouge pas. Mais sachez que tout ce qui est autour de vous, même ce qui est le plus minéral possible, il y a toujours une âme. Comment on peut comprendre qu'il y a toujours une âme? C'est quoi l'âme qu'on peut retrouver dans le minéral? Ça, le Harizal n'a pas expliqué à ses élèves. Mais grâce à ce que le Baal Shem Tov a expliqué, que finalement, la parole d'Akadosh Baruch Hu est constamment en train de régénérer la création, ben, on comprend que quelle est la vitalité, quelle est l'énergie de laquelle le Harizal voulait parler. C'est cette fameuse énergie qui est généré par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Cette énergie est constante, elle ne s'arrête jamais. Zaïnou, ça veut dire Prinat itlapshut otiot adibur me'asara mamarot ameavot mechayot atodomem liot yesh me'ain ve'efes lif shelifne shechet yeme bereshit. Ça veut dire que qu'est-ce que le Harizal voulait expliquer? Qu'est-ce qui fait que cette pierre existe? Pourquoi il dit que cette pierre a toujours une vitalité? C'est quoi la vitalité de la pierre? La vitalité de la pierre et tout ce qui peut exister, c'est l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu a déployée quand il a dit la phrase qu'il fallait pour créer la pierre. Alors, le problème, pourquoi c'est compliqué? Parce que Dieu a dit que 10 phrases. D'accord? Moi, tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu a dit que le poisson soit. Dieu n'a pas dit que le poisson soit. Dieu a dit que la race des poissons soit, mais il n'a pas dit quel poisson va être créé avec telle combinaison. Donc, c'est pour ça que ça devient très compliqué. Si Dieu avait dit chaque nom, chaque chose, ça aurait été facile. Là, le problème, c'est que Dieu ne l'a pas dit. Donc, Dieu a dit, Asara Mamarot, 10 paroles. Et avec ça, c'est compliqué à trouver 10 paroles. Parce que vous allez compter, vous n'allez pas trouver 10, vous allez trouver 9 ou 8. Donc faut chercher pour trouver 10 paroles. Mais il n'y en a que 10. Alors après, la force, c'est d'être capable de trouver, c'est la force de Damarishon, d'être capable de trouver au travers de ces 10 paroles, avec les combinaisons qu'il faut, de trouver tout ce qu'il faut pour comprendre comment le reste a été créé. D'accord? Mais avec ça, on a déjà compris beaucoup de choses. On a compris numéro 1, que le monde est constamment régénéré par la Kadosh Baruch Hu. On a compris numéro 2, que si Dieu arrêtait un seul instant de générer le monde, qu'est-ce qui se passerait?
Il n'y en aura plus.
On a compris également une troisième chose. On a compris ce que le Harizal voulait dire lorsqu'il disait que le monde était, lorsqu'il disait que même le minéral avait une vie. Même le minéral avait une âme. Même le minéral avait une vitalité spirituelle. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Harizal quand il disait ça? Maintenant on comprend. Quand le Harizal nous parle de vitalité spirituelle, il nous parle de cette fameuse combinaison d'énergie qui permet à ce minéral d'exister. Et que sans cette combinaison, ce minéral arrêterait d'exister. Ve'av shelo uskar, maintenant, ça c'est la force qu'on va essayer de développer. Ve'av shelo uskar. Bonsoir. Là. Ayakva. Aya. Aya. Shmoné. Ça gourre, ça va. Les Israéliens qui voulaient un resto, David.
Ah, pas les clés.
Alors, dis maintenant, donc avec ça, on a compris, Af, chez le Oscar, Shem, Even, Sarah, Mamarot, chez Batora. Mais là, sauf que là, on a un problème. Le problème, comme je vous ai dit, c'est quoi? C'est que, par exemple, on a parlé d'une pierre. Bon, cherchez le mot pierre dans, dans la première paracha ici. Vous n'allez pas trouver une seule fois le mot pierre. Pas Pierre, le prénom. Hein. Pierre, la pierre. Non, rien à voir. Vous avez chaud? Il ne sait pas si
c'est
chaud.
Chaud. Ouais. Mais c'est le même.
Hmm, c'est le même temps dehors?
Non, je dis pierre et pierre, c'est le même. Hein.
Bon, il y a eu plusieurs gars qui ont passé pour la clim, on n'a pas encore trouvé la solution, mais là, il y a un expert qui va passer jeudi. Alors, priez pour qu'il trouve la manière de faire marcher la clim.
Priez, donne-nous la bonne combinaison, on va trouver les bons mots et ça va marcher.
Voilà, il faut prier. Là, il y a un expert qui va passer. Donc, je suis en train de...
Trouver la clé.
Ah, il faut la clim, hein, il faut la clim, c'est...
La clim, pour avoir la clim, il faut la clé.
Surtout
Surtout là, actuellement.
Ah, oui. Alors, je suis en train de dire, le problème c'est quoi? C'est que tu me dis que tout a été créé par la parole de Dieu, mais pourtant, Dieu n'a pas dit le mot pierre. Alors, comment une pierre existe?
Il n'a pas dit le mot clim aussi.
Alors, écoutez bien. Mais... C'est là qu'on va expliquer, on va expliquer plusieurs techniques, comment le monde a été créé. Et c'est là qu'on va parler des lettres. Est-ce que vous savez ce que c'est de la gimatria et les théorophiles? Alors, on va développer ça.
Gimatria, peut-être que oui.
Bon, gimatria, c'est quoi?
C'est le calcul de lettres.
Géométrie? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. C'est quoi géométria?
Je sais pas, ça forme un chiffre.
Valeur numérique.
Valeur numérique.
Ouais, on va développer. Il y a plusieurs manières de faire les calculs. Parce que, et ça va compliquer les choses. Parce que moi, tout à l'heure, je vous ai dit, on va prendre, par exemple, je sais pas, les 2000 ou 3000 lettres qu'il y a dans le premier chapitre. Avec ça, on va faire des combinaisons. Avec ça, on a tout trouvé. D'accord. Oui. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire les combinaisons. Il y a plusieurs manières. Vous allez voir, ça va être compliqué. Donc là, avec ça, on va comprendre que... On peut créer encore pendant des millénaires, et sans problème. Regardez, je vais expliquer ici. Afal piken quand même. Nimshach chayut le'even. Comment cette pierre va être générée? Aliede tsirufim vechiloufe otiot. Alors, il y a plusieurs techniques. L'admorazaken hésite en un seul mot ici. On va essayer de développer mot par mot. On a d'abord ce qu'on appelle tsirufim. Donc j'ai dit que le mot even n'est pas écrit dans la Torah. Le mot pierre n'est pas écrit dans la Torah. En tout cas dans la création du monde. Donc la question qu'on se pose, c'est comment la pierre, qui existe depuis la création du monde, on le sait, comment la pierre a été générée. Première méthode possible, c'est par le tsirouf. C'est quoi le tsirouf? Pardon. Le tsirouf, c'est que par exemple, on peut prendre le aleph du mot de Bereshit, d'accord? Le bet, j'ai dit comment on dit une pierre en hébreu? Even. Aleph, bet, nun, d'accord. Alors, c'est quoi le tsirouf? C'est les combinaisons. Écoutez bien les combinaisons, sauf que c'est les combinaisons avec lesquelles on peut sauter. Ça veut dire que je peux prendre le Aleph du mot Bereshit, par exemple, le Bet, je sais pas moi, du mot Esef, par exemple, divers et plus loin, et le Noun du mot Rishon. D'accord? Vayere, Vayevoka, Yom, Rishon. Par exemple, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire qu'on a pris, des versets qui sont éloignés l'un de l'autre, et on a pris une lettre par-ci, une lettre par-ci, une lettre par-là. On dit, ah, ça y est, on a trouvé Even. On connaît que là, tu t'amuses à faire ça, tu veux, hein? Tu peux te trouver. Attendez, mais ça c'est uniquement la première technique. C'est la technique des tirouvim.
Une fois qu'on a utilisé une lettre, on ne peut pas la réutiliser pendant le cours.
Ah bien sûr, on peut utiliser autant de fois qu'on veut.
D'accord.
Ah oui, sinon c'est trop facile.
Sinon c'est encore plus simple.
Sinon c'est encore plus simple. Ah non, là c'est très compliqué là. Là on vient de nous décourager. Là. Moi quand je lis ça, je dis ça y est, c'est bon, ça n'existait même pas. C'est fini, puisque tu me dis, je vais prendre une lettre ici, une lettre au milieu, une lettre à la fin. Dans ce cas-là, tu peux aller où tu veux, en soi. Au rabat. Venez, venez.
Je ne rangeais
pas. Hein. D'accord. Donc. Prenez la prochaine fois. D'accord.
Vous êtes arrivé à un moment clé.
Si, à tel Ismaël.
Hein?
Donc, on est en train d'expliquer. Nous dit l'Admor HaZaken. Que. Il a ramené ce que le Baal Shem Tov a expliqué. Baal Shem Tov a dit que Leolam Hashem Dvaracha Nitzav Vashamaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, quand Dieu a créé le monde, il a dit par exemple que le monde soit, que la terre soit, que le ciel soit, etc. Ben le Baal Shem Tov explique que cette parole, que Kadosh Baruch Hu a dit, cette parole reste là constamment et c'est elle qui génère le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un ciel, c'est parce que l'énergie que Dieu a déployée en disant Yehirakia Betor Amaim, d'accord, donc pour générer le ciel, et bien cette parole continue aujourd'hui encore de générer et de créer le ciel. Et si cette parole s'arrêtait un seul instant, il s'arrêterait d'exister. Alors, comment, ça veut dire quoi que la parole génère? C'est ce qu'on a commencé à expliquer. On a dit que quand on analyse la première, le premier chapitre de Bereshit, on peut retrouver les combinaisons qu'il faut pour générer tout ce qu'il y a dans notre monde. Donc on a donné un premier exemple, l'exemple du mot Even. Even en hébreu, ça veut dire une pierre. On a dit la pierre, ce qu'il y a de plus primaire, il y en a partout. Le mot Even n'est pas écrit dans le premier chapitre de Bereshit. Alors comment on va trouver le, comment il a été créé? Puisqu'on a expliqué qu'il n'y a aucun élément dans le monde qui n'est pas généré par la parole de Dieu. La parole est égale les combinaisons, l'énergie. Alors on a donné une première technique. La première technique, c'est les tsirufim. Tsirufim, c'est les associations. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre, dans le mot Bereshit, on va prendre le Aleph. Dans le mot Esef, par exemple, on va prendre le mot Bet. Et dans le mot Rishon, on va prendre la lettre Nun. Donc avec ça, on va obtenir le mot Even. Bon, avec ça, on peut aller, on peut composer le mot qu'on veut. Ça, c'est seulement la première technique. Il y a une deuxième technique, dit l'Admor HaZaken, c'est Chiloufé Otiyot. Les échanges de lettres. Alors ça va encore plus compliqué. C'est quoi les échanges de lettres? On sait que il y a les lettres, il y a 22 lettres de l'alphabet, mais les 22 lettres sont séparées en 5 groupes. Il y a les lettres gutturales, les lettres, enfin je sais pas comment on dit en français, hein,
les labiales,
etc. D'accord, il y a 5 groupes en tout cas, il y a les lettres qu'on dit, etc. Donc il y a 5 groupes. Alors on va prendre par exemple les lettres de la gorge, les lettres gutturales, qui sont Aleph, He, Chet, Ain. On dit l'Admor HaZaken, c'est quoi la deuxième technique? C'est que on peut échanger une lettre. Par exemple, j'ai envie de composer le mot Even, mais je trouve pas le mot Even. Alors, déjà, tu m'as permis de prendre une lettre ici, une lettre là-bas, une lettre là-bas, mais je vais compliquer encore les choses. Si tu veux, pour la première lettre qui est Aleph, par exemple, t'es pas obligé de trouver un Aleph. Tu peux trouver soit un Aleph, soit un He, soit un Chet, soit un Aïn. Pourquoi? Puisque les quatre font partie du même groupe. Ça veut dire que si c'est fait partie du même groupe, on peut l'utiliser pour faire la combinaison. Donc là, on a encore... C'est pas un intérêt, c'est que c'est comme ça que ça se passe. C'est fait comme ça. Là, je parle pas d'intérêt, là, je parle... Comment c'est fait aujourd'hui?
C'est encore plus simple, avec les combinaisons, avec les interchangeables.
Ah non, ça complique les choses, parce que du coup, c'est possible que la lettre n'est même pas écrite. Que la lettre que je cherche n'est même pas écrite. Il faut chercher d'autres lettres. Donc j'ai encore...
Pour le Aleph, j'ai 5 possibilités. Je suis pas obligé de prendre le Aleph.
Non, c'est-à-dire que moi je cherche un Aleph, mais je suis pas obligé de chercher que le Aleph.
Je peux chercher 4 autres lettres.
Bah oui, donc ça veut dire que si je veux chercher le mot Even, je peux toujours chercher. Parce que c'est possible que c'est même pas un Aleph que je dois chercher, je dois chercher un He en vérité. Je peux toujours courir. Ça c'est Tsirufim. Donc on a, pardon, Chiloufé Otiyot. Donc on a Tsirufim, c'est les associations de lettres. Chiloufé Otiyot, c'est les échanges de lettres. Permutation. On a encore une autre technique. C'est les Tmurot. Les Tmurot, c'est les échanges. C'est quoi les échanges? Alors, il y a plusieurs techniques pour les échanges. Hein. Plusieurs techniques, mais la technique qui est la plus connue, c'est Atbash. Ça veut dire, par exemple, le Aleph s'interchange avec le Tav, puisque le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, le Tav, c'est la dernière. Donc, première, dernière, deuxième, avant-dernière, troisième, avant-avant-dernière. D'accord? Bon. Donc, c'est les échanges. Donc là, encore une fois, on te dit, tu sais, tu cherches le Aleph, mais en vérité, c'est pas le Aleph que tu dois chercher, c'est le Tav. Mais attendez, mais après on peut faire plusieurs méthodes en même temps. Ça veut dire que je peux chercher 3 lettres dispatchées dans une au milieu, une au début, une au milieu, une à la fin. Et en vérité, je cherche le He. Et en vérité, c'est pas le He que je cherche, mais c'est celui qui est de l'autre côté. Donc avec ça, voilà, j'ai encore enlevé mes chances de trouver. Vous me suivez? Par exemple, Even, je cherche.
J'ai augmenté mes chances de trouver.
Ah non.
La difficulté de le repérer.
Ah bah oui, c'est. Je veux tout trouver. Avec ça, je comprends que je peux tout trouver.
Tu n'importe quoi avec ça.
Ce que je veux. Je fais ce que je veux avec ça. On peut trouver ce qu'on veut. C'est pas fini.
Et quel intérêt de retrouver par rapport à tel mot? Quel intérêt
Pour la combinaison?
Mais par rapport à le fait que ce soit tel mot, quel est l'intérêt?
Il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'on veut nous expliquer ici, c'est comment, avec un chapitre qui est assez limité, puisque c'est limité, il y a un chapitre, et il y a 2500 lettres, combien il y a déjà? Il n'y a pas énorme. Avec ça, on peut générer chaque chose qu'il y a dans le monde. Et pas seulement ça, toutes les nuances qu'il y a. La différence entre une bouteille et un verre, c'est écrit ici. Bien sûr, tu peux aller où tu veux avec ça. Mais après, il faut savoir les trouver. Tu comprends? Parce qu'on va dire, voilà.
Il y a des choses qui existent qu'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il y a plus.
Eh ben oui, c'est. Non, mais c'est à l'infini, on peut aller à l'infini avec ça. À l'infini, presque à l'infini. C'est pas fini. On a également les guimatriotes. Alors, c'est quoi les guimatriotes? Donc, la guimatria, c'est que par exemple, tu dis, écoute, qu'est-ce que tu cherches? Even, par exemple, tu cherches un noun? 50? Disons que tu trouves pas le noun. Bon, tu sais, c'est pas compliqué.
40 et 10.
Tu prends 40 et 10. C'est bon, on s'arrange. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas 3 lettres que tu dois chercher. C'est 4 lettres. ou 5 ou 6, etc. Ou 10 ou 20. Parce que si je m'amuse après à faire des... Si je m'amuse à prendre plusieurs lettres pour former un mot, hein, dans ce cas-là, je peux aller très très loin. Si tu cherches le noun pour faire 50, il n'y a pas de problème. Ne prends pas noun. Prends 50 lettres. Prends 50 élèves. Voilà, c'est fini. Là, on a complètement faussé. Parce qu'avant, au moins, on savait que j'avais cherché 3 lettres. Donc ça va. 3, c'est 3. Bon, on va s'amuser avec les permutations et tout. Mais là, c'est même plus 3 que je dois chercher. Je sais même plus comment je vais chercher. On est d'accord ? Donc ça, c'est un deuxième exemple qu'il donne ici. Et donc, il dit, la Gemara Zaken. Alors, c'est une autre mot. Donc voilà, on a tsirufim, donc on va récapituler. Combien de méthodes on a eu ? On a eu les tsirufim. Tsirufim, ça veut dire les associations, c'est-à-dire on prend une lettre d'un verset, une lettre d'un autre, une lettre d'un autre. On a eu les chiloufeotiot, les permutations. Ça veut dire on a expliqué par exemple que si je cherche un aleph, eh ben je peux prendre une lettre qui se trouve dans les lettres gutturales, puisque le aleph est une lettre gutturale, aleph et chet aïn. On a donné la troisième méthode qui est les échanges. C'est-à-dire, par exemple, Aleph est égal à Tav, Adbash, par exemple. Et on a donné enfin la quatrième méthode, qui est que pour former une lettre, par exemple, Even, le Noun de Even, 50, eh ben, je vais prendre autant de lettres qu'il faut pour former 50, former le chiffre 50. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on peut utiliser toutes ces méthodes en même temps. Ou on peut utiliser une des méthodes. Donc, c'est très compliqué, c'est pratiquement impossible de savoir. D'accord, mais je sais pas s'il y a un cerveau qui peut tenir, qui peut suivre tout ça.
C'est par rapport à Aleph ou pas pour vous ? Even, 50, est-ce que je peux faire genre... Est-ce que je dois composer 50 ?
Non, je dois composer les 3 lettres. Mais les 3 lettres, je peux les composer comme je veux. D'accord. Je dois composer 3 lettres. Bon, donc là, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on appelle les gens qui sont capables de voir ça. Premier chapitre, très important. On appelle ces gens-là, on dit qu'ils ont un Sechel à Eloki. Sechel à Eloki, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau divin. Parce qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre ça, c'est pas possible. Il ne peut pas, c'est limité. Et par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle un Tana à Eloki. On l'appelle, c'est un Tana, donc c'est un maître de la Mishnah, à Eloki divin, parce que lui, sa force était dans ça. Lui, il était capable.
C'est encore pire, c'est sur les couronnes.
Sur les couronnes, oui. C'est encore pire. Non, ça, c'est sur le couronne, sur les drachotes. Non, mais là, je parle de la création du monde. C'est-à-dire qu'il te voit quelque chose, il est capable de te dire d'où il vient et où il va.
Ça explique aussi. Mais...
Oui, bien sûr, oui, ça explique sa manière de voir le. Bien sûr. Parce qu'il y a rien qui voyait le fond des choses. Donc, continue la Gemara Zaken. Amid Galgelot. J'ai pas fini encore. Vous croyez que j'ai fini ?
La nature des choses, quand on dit la nature, quand on parle du lion.
Oui. Donc le lion, par exemple, c'est Aleph, Resh, Yud, He.
D'accord. Mais est-ce que le terme qu'on va essayer va en extraire la quintessence de la nature ?
Alors justement.
La férocité. Genre, ce qui,
justement, le problème, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est qu'en hébreu, ça n'existe pas un nom de convention. C'est pas comme en français. On a décidé que ça c'est un lion et ça c'est un âne. Mais on aurait pu appeler ça un âne et ça un lion. On aurait pu faire le contraire, ça y est. Il n'y a pas de problème, c'est un nom de convention, c'est-à-dire c'est pour qu'on puisse se comprendre. Dans la Torah, la force d'Adam Harishon, c'est que c'est pas un nom de convention. C'est un nom qui correspond à la combinaison qui a été utilisée par Dieu pour créer cet animal. Donc c'est pour ça qu'il y a l'importance du nom.
Adam Harishon était capable de faire ça.
Ben oui.
De reconstituer
la combinaison.
La combinaison de chaque...
Bien sûr. À part ça, il y a des tzadikim comme Rabbi Meir, puisque la semaine dernière c'était l'éloi de Rabbi Meir Balanes, on dit qu'au travers d'un nom de quelqu'un, sans passer par la combinaison, il était capable de voir la nature d'une personne. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je n'ai pas parlé de ça. Là, j'ai simplement dit qu'un nom, c'est une combinaison de lettres. Une combinaison de lettres, ça correspond à la combinaison, c'est quoi des lettres, c'est quoi des mots ? C'est de l'énergie. Donc c'est la combinaison d'énergie que Kadosh Baruch Hu utilise pour créer le monde, pour créer cette chose-là. Alors, nous dit l'Admor HaZaken, c'est pas encore fini, il dit... Ah, j'ai perdu la ligne... Alors, où on est ? Quelle ligne on est là ? L'avant-dernière ligne. Ok. Alors, maintenant, le Sefer Yetzira... Sefer Yetzira, hein, Yaakov, tu veux nous parler un petit peu du Sefer Yetzira ?
Non, je te laisse faire.
Bon. Alors, le Sefer Yetzira, c'est un livre qu'on dit que... C'est un livre que, selon la Kabbalah, on dit que c'est un livre qui a été... Pas écrit, mais en tout cas, qu'on a en Kabbalah, on a reçu depuis Adam Harishon. D'accord ? Sefer Yetzira, c'est très très court. C'est très très court, mais c'est autant court que compliqué. Pourquoi c'est très court et pourquoi c'est très compliqué ? Parce qu'en fait, c'est un mode d'emploi. Dans le Sefer Yetzira, il donne 251 manières d'analyser les mots. D'accord ? 251 manières. Alors, par exemple, il dit, une des méthodes que nous donne le Sefer Yetzira, enfin, je vous le dis, hein, parce que moi je l'ai pas lu dans le Sefer Yetzira, hein. C'est une méthode qu'on appelle Ayak. D'accord ? C'est quoi Ayak ? Aleph, c'est les unités. Yud, c'est les dizaines. Kouf, c'est les centaines. Et avec ça, on peut s'amuser. C'est-à-dire on peut interchanger les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Voilà encore une autre technique. Et il y en a comme ça 251. Donc là, la Dvora Zaken étudie, je te donnais seulement les grandes lignes, mais si tu veux aller plus loin, vas-y dans Sefer Yetzirah. Donc là, on est parti encore plus loin, là c'est... Là, on a lâché. Pourquoi la Dvora Zaken dit ça? C'est simplement pour expliquer ce que le Baal Shem Tov voulait dire. Quand le Baal Shem Tov a dit que c'est la parole de la Kadosh Baruch Hu qui continue à générer le monde. La Dvora Zaken fait seulement qu'expliquer ici ce que le Baal Shem Tov voulait dire. Dans les mots, Vechen, il en est de même. Vechol anivraim shebaolam. Il en est de même pour toutes les créatures qu'il y a dans le monde. Là, on a donné le nom Even. Donc on a donné un exemple pour le nom Even. Mais il en est de même pour toutes les créatures qu'il y a dans le monde. Hashemot shenikraim ba'em belashon hakodesh. Les noms qu'on leur a donnés en hébreu, comme on a dit, le nom en hébreu n'est pas un nom de convention. Le nom qui est en hébreu, En, alors en hébreu, pas en hébreu moderne, en hébreu biblique. En, Hen, Otiyot, Adibour. Le nom qu'on lui a donné en hébreu, c'est exactement les lettres de la parole à Mishtal Shelot, Imadrigal, Imadrigal, Measara, Mamarot, Shabbatora. C'est l'énergie de Dieu qui va descendre de niveau en niveau et que selon la composition, avec ça, on va pouvoir générer chaque chose qui est dans notre monde. Alide, Chiloufi, Moutmorot, Aotiot, Beresh, Lamadalef, Sharim. Et donc, si le Sefer Yetzirah nous parle de 251 méthodes, ça veut dire qu'il y a 251 portes. 231 portes. Alors, c'est quoi le piège, encore une fois? Et ça, c'est le Morazaken. Bon, là, le Morazaken, je vous rassure, c'est le dernier piège. C'est que on peut utiliser plusieurs de ces 231 méthodes. C'est-à-dire, s'il faut, on peut faire les 231. Pas une des 231. C'est-à-dire, pour arriver à un mot, s'il faut, je peux faire les 231 méthodes. Là, c'est clair.
Dans une combinaison qui peut être...
Exactement, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi.
C'est du factoriel. Normalement, le problème de maths, on va le faire, non? Le problème c'est du factoriel. Un problème informatique, quoi. Il faut une grosse bécane. Hein. C'est du factoriel, tu vois.
Ça va être très très loin, là. Oui, je pense. On peut donner un chiffre. On peut donner un chiffre.
Si je commence l'une avant l'autre ou l'autre avant l'une, ça fait pas la même chose.
Mais ce qui est clair, c'est être capable de retrouver dans la Sarah Mamarot le mot Pierre où il est écrit où, ça. Tu peux le trouver dans beaucoup d'endroits. Après, il faut trouver c'est lequel le bon. C'est impossible, ça.
Il faut pas ajouter la pierre, oui. Non, c'est très difficile.
Très difficile. Bon, pas mal.
Seulement ils avaient roi à Kodesh.
Ah, chez nous, non, c'est ce qu'on appelle Sechel à Eloki. C'est un cerveau divin, c'est pas possible. Sinon, tu peux passer.
Non, mais c'est
cerveau divin à Kodesh.
Ah ouais, mais cerveau divin, ça veut pas. C'est-à-dire que le gars, il a un ordinateur.
Non, un cerveau divin, je t'expliquais.
Il est connecté, le mec.
Quand on y a un cerveau divin, ça veut dire que Dieu lui montre.
Il est sur la toile, il est sur la toile.
C'est-à-dire que Dieu lui montre. Non, Dieu lui montre. Il dit voilà, regarde, tu vois, ici, ici, ici. Et lui, il doit comprendre ce qu'il a vu.
Ça allume, il voit les lettres.
Tu comprends? Il doit comprendre ce qu'il a vu.
Ça allume où est-ce que ça va?
Donc son cerveau peut être
Ah oui, c'est très possible, oui.
Il est normal.
Il est pas comme celui qui est super bon bateau.
Voilà, c'est ça.
Ça peut être quelqu'un de normal.
Ah oui, il lui montre Dieu. Après, il faut comprendre ce qu'il a vu aussi. Parce que s'il comprend pas ce qu'il voit...
Oh, il a une formation initiale.
Ouais, initié, quoi.
Il doit être bon en maths, en tout cas.
S'il est pas, ça se trouve, Dieu, il peut lui filer.
C'est pour ça que Marie, ça commence avec un LF.
Oui, vas-y.
Parce que la première fois qu'il y a un mot qui est utilisé avec LF, c'est Elohim.
Oui.
Et on sait que chaque mot qui commence par une lettre, la première fois qu'il est utilisé dans la Torah,
ouais.
elle décolle par rapport à ça. Mm-hmm. Et comme Elohim c'est Kadosh Baruch Hu, et que Avram c'est le premier, et que Ari, etc., à chaque fois le patron Adon, etc., ça va commencer par la lettre.
Je vais expliquer ce qu'il dit Yaakov.
C'est
un message du Rabbi de Kotz, mais c'est un message qui est très très difficile à comprendre. Hein.
Quoi,
il dit comme ça.
Parle au moins, il faut toujours dire le nom de l'auteur.
Il dit que...
Le roi de la Ménorah.
Il dit comme ça. La Ménorah dans tous les sens.
Le roi de la Ménorah.
Oui, c'est lui qui a expliqué ça.
Alors, le rabbi de Côte qui disait la chose suivante. Il disait que si on veut savoir la source d'un mot, il faut toujours chercher la première fois que la Torah en a parlé. Je vous donne l'exemple qu'il amène. Par exemple, si on veut savoir qu'est-ce que la Torah pense de la réussite. Donc il faut chercher la première fois où la Torah a parlé de la réussite. C'est quand la première fois que la Torah a parlé de la réussite? La Torah a parlé de Yosef. Yosef HaTzadik. Et quand on a dit le terme Matzliach, il était où Yosef, quand on a dit ça, la première fois?
La première fois où il était?
Oui.
Dans le trou.
Il était en prison. Alors ça veut dire que pour la Torah, on a dit que si on veut comprendre qu'est-ce que la Torah en pense, il faut le chercher la première fois. Alors c'est-à-dire que pour la Torah, réussir, c'est la prison.
Sortir de prison.
Non, il est en prison. Il n'est pas sorti de prison. Après on le répète une deuxième fois quand il est sorti. Mais on, la première fois.
Il est en prison.
D'accord. Bon, alors, il y a les Mefarchim, ils expliquent que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de Yosef, c'est qu'il essayait toujours d'aller au-delà. Et que, pourquoi, c'est quoi le secret de la réussite selon la Torah? C'est toujours essayer d'aller plus loin. Et quand est-ce que Yosef essaye d'aller plus loin? Quand est-ce qu'on essaye d'aller plus loin? C'est quand on est bloqué, quand on est en prison. Que Yosef, au lieu de se dire, bon, ben, je suis en prison, je sortirai quand je sortirai, c'est là qu'il voulait sortir. C'est pour ça qu'on dit, tu veux savoir c'est quoi la réussite? C'est ça. Ça, c'est un exemple. Alors, je reviens à ce que Yaakov disait. Yaakov disait qu'on peut pousser ce principe un peu plus loin. Et, par exemple, pour les lettres. D'accord? Pour les lettres, non, mais c'est le rabbi de Côte qui disait aussi. Pour les lettres. Par exemple. Par exemple, pour le Aleph, vous voulez savoir le Aleph. Qu'est-ce que la Torah pense du Aleph? Eh bien, il faut voir la première fois qu'on a eu un Aleph dans la paracha Bereshit. Où on a eu le premier Aleph, Bereshit. Aleph. Dans le mot Bereshit. Donc celui qui va chercher là-bas, il pourra trouver beaucoup de choses. Bon, après, il faut chercher, hein, il y a comme ça, je te
le dis. Non, c'est pour dire pourquoi le départ, c'est pour dire.
Alors oui, alors, pareil. Donc la première fois qu'il est en première position, nous montrera pour les autres fois où il sera en première position, etc.
C'est pour ça que le lion, on appelle le roi des animaux. La racine vient de là.
Ah rien, oui. La première fois, il y a un Aleph qui était le premier, qui était en première lettre. Bon, c'est le même concept.
Majestueux, la pierre.
C'est
non, Eben, qu'est-ce qu'elle a de Adon, Arié.
Ah, y'a rien. Ça, non, toi, non. Le mot en soi, Eben, ne veut rien dire.
Ça doit trouver.
C'est une combinaison.
Non, tu sais qu'une... une pierre,
c'est Hélo-Ki.
Une pierre, c'est pas une pierre, une pierre. Je veux dire, une pierre, à l'intérieur, il y a des choses.
Oui, je crois.
On dit que les Neshamot qui sont beaucoup de Averot, elles sont bloquées dans les pierres.
Entre autres, elles sont bloquées dans les chiens aussi, hein.
Dans les pierres, c'est
bloqué partout.
C'est bloqué dans les pierres parce que le chien, il vit, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans. Mais une pierre, ça vit des milliers d'années. Donc quand tu traverses le Mont Blanc, par exemple, moi je suis angoissé à chaque fois. Je vois toutes ces montagnes et toutes les Neshamot qui sont bloquées à l'intérieur.
Faut sauver le monde.
Il y a quelque chose, les pierres elles ont une...
Tu vois, on croyait qu'il était pas en forme ce soir, mais...
Ah, il est en forme, il est décollé, là, c'est bon, il est décollé.
Là, j'y dis pas, là.
Donc, toutes ces Neshamot qui sont bloquées, etc., dans les pierres, ça
peut pas croire. Le Kilimanjaro, c'est...
Himalaya.
Je sais pas, moi, je ressens... Non, mais c'est vrai qu'on raconte beaucoup d'histoires avec le Sadiki. Moi, je ressens rien, désolé. Il y a beaucoup d'histoires avec le Sadiki qu'on raconte que lorsqu'ils arrivaient à un certain endroit, ils disaient, voilà, ici, il y a quelque chose. Il fait une bracha avec une grande kavana, il étudie un chapitre de Michel de Gemara, il dit c'est bon, ça n'est jamais reparti. Il y avait une pierre.
Ah, tu
vois ? Bon, ça...
Excuse-moi, j'ai pu te dire une bêtise.
Jamais.
C'est ça qui s'appelle Saint-Pierre. Hein.
le chinois qui va dénommer le lion avec sa langue à lui et moi, je vais l'appeler Arié, comment faire pour se comprendre ?
On s'en fout du chinois.
Non, ça ne fait pas du chinois. C'est que le chinois, quand il a appelé le lion dans sa langue, dans deux secondes. Le chinois, quand il a appelé le lion dans sa langue, c'était un nom de convention. Ça veut dire que c'est un nom que les chinois ont décidé pour se comprendre. D'accord ?
C'est
ça qu'on a dit de convention, je crois. On dit, bon, c'est une convention. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé que pour se comprendre, eh bien, écoute, tu sais, ça, on va appeler un lion. Et ça s'appellera un iPhone. On aurait pu appeler ça une table. Et c'est un nom de convention qui a été décidé. C'est comme ça.
D'accord.
Mais ça veut dire que c'est, dans le mot, on ne retrouve pas la teneur de la chose. Ça n'a rien à voir.
Je crois que le grec aussi, il y a le grec aussi, me semble. Puisque le grec, on peut traduire l'hébreu.
Oui, c'est une langue qui est très précise.
Voilà.
Autre chose, oui. Alors, donc 251 portes. Pourquoi 231 portes, pardon. Pour nous dire qu'on peut passer...
C'est que les choses ont été créées avec les mots.
Ah oui.
Donc le mot a existé avant la chose, d'où le mot en hébreu qui contient le sens de la chose.
Et le mais c'est pas... Donc, c'est pas
il a dit c'est le ciel, il a dit le mot ciel, et après, c'est devenu le ciel. Donc le mot a précédé l'objet, d'où le sens que le mot contient l'objet. Alors que quand les autres nations ont créé leur langue, entre guillemets, l'objet existait et ils ont donné un nom dessus.
D'accord.
D'où la nuance.
Le chidouche du Baal Shem Tov.
Le nom est contenu, quoi. Enfin, voilà, c'est ça le...
Le chidouche du Baal Shem Tov, c'est que jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait vivre cette pierre? C'est la combinaison de la parole de Dieu qui est toujours là en train de la faire vivre. C'est comme on a dit, c'est vrai. Si maintenant Kadosh Baruch Hu voudrait arrêter de créer le monde, voudrait détruire le monde, il n'a pas besoin de détruire le monde. Il suffit pour lui d'arrêter de parler.
Alors les gens qui maîtrisent ces formules-là.
Très beau, c'est des formules.
C'est des gens qui sont capables de comprendre le monde.
Ce sont des gens redoutables.
Ce ne sont pas des gens.
Le secret du monde est dans ce chapitre. Mais bon,
il y a des gens qui maîtrisaient ces formules.
Bien sûr.
Ils étaient susceptibles de créer de la matière.
Non, pas créer, de comprendre.
Si, j'ai transformé, le moral de Prague.
Oui, d'accord, mais c'est pas forcément au travers de... C'est pas forcément... Quand on comprend ce qui se passe, on peut faire beaucoup de choses. Mais ça, dans la paracha Bereshit, tout est écrit. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce qui se passe.
D'où les formules magiques?
C'est pas les formules magiques.
Si, les pharaons.
Un bras de cadabra.
C'est des formules magiques.
qui se cache?
Non, pas magique.
Je crois que la droite, c'est de l'araméen.
L'araméen.
C'est des brutes, quoi,
c'est pas long.
Ah bon, oui, bon.
Abracadabra.
C'est l'araméen, quoi. C'est, ça ressemble plutôt à l'araméen.
Vous voulez dire abouré?
Oui.
Abouré,
cadaver. Cadaver, oui, bon. Le cas, c'est...
Ah, c'est une vraie formule, hein.
C'est un effron, c'est un effron.
Je sais pas, enfin...
Cadaver.
Je sais pas si c'est...
Il a créé comme il a parlé.
Je sais pas si c'est celui qui a inventé le terme abracadabra.
Ah, c'est loupé, ça vient de là.
Ouais, ça vient de là.
Oui, c'est sûr.
Bon.
Ah,
c'est vrai,
c'est
sûr que ça vient de là.
Ah oui, on peut pas passer à côté. C'est le dieu qui crée. Enfin, qui a parlé, d'ailleurs. Cadabra, il a parlé.
Il a créé comme il a parlé.
Il a parlé.
Eh ben, c'est franchement.
Alors, on nous dit, la Admorazaken, donc on avance encore 2-3 minutes, on s'arrête. Donc, Hatch Magiot, Umit Lapshot, Beoto Nivra la Chayoto. Donc, ça va passer par 231 portes, autant de portes qu'il faudra, jusqu'à ce qu'on va obtenir le résultat final. Donc, ça va passer par beaucoup d'étapes. Donc, c'est très difficile à suivre ces étapes-là. Les fiches en praté à Ibrahim, voilà, avec ça on finit le chapitre. Les fiches en praté à Ibrahim, Yecholim, les Kabel, Chayuta, Masara, Mamarot, Atsam, Shabbatora. Puisque les créatures ne peuvent pas recevoir leur énergie directement, en brut, des 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. Parce que les dix paroles d'Akadosh Baruch Hu sont trop brutes. C'est pas assez pour créer ce qu'il y a autour de nous. Donc on a besoin de passer par plusieurs étapes, par des portes. Donc ces portes et les combinaisons. Donc ça va répondre à la question de Lionel. Lionel a posé la question tout à l'heure, il dit, mais pourquoi Dieu a compliqué les choses? Là, on a la réponse. Parce que si Dieu avait créé les choses, Dieu aurait pu faire autant de paroles qu'il faut pour créer autant de créatures qu'il faut. Mais la parole aurait été trop forte. Les créatures n'auraient pas pu avoir l'indépendance. Pour leur donner cette sensation d'indépendance, on va passer par plusieurs étapes. Des minutes, mais en vérité, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc on passe par toutes ces portes pour réduire l'intensité de l'énergie. Pour après pouvoir créer une créature qui donne la sensation d'indépendance, ce qui est faux en vérité.
Ça veut dire que Arié ici, ça ne s'appelle pas Arié dans le ciel.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est possible qu'en haut, c'était pas Arié, c'était une autre lettre. Oui, c'est exact, à 100%. Gadol, donc un korban le kabel achayut. Donc je fais un peu vite parce que j'ai expliqué à l'oral. Et là, aliyede shiyored achayut mishashel madrigal madrigal protamimena aliyede chilufim utmurot otiyot vegimatriot shen cheshbon otiyot al shiyuchal litzamtzem ou litlabesh ou litavot imenu nivra pratim. Donc il faut passer par différentes portes, différentes méthodes, d'accord, comme on a expliqué, les échanges, les permutations, etc. Tout ça pourquoi? Pour atténuer la lumière, atténuer l'énergie de manière à ce qu'on puisse créer une créature qui est indépendante. Vezé Shmo Asher Ikriu Lob Lashon HaKodesh. Et ça, c'est le nom avec lequel on appelle quelque chose. Ou Kli Lechayut Ametsumtsam Beotiot Shemzin. Donc le nom avec lequel on va appeler la chose, le nom est le réceptacle pour recevoir cette énergie. C'est-à-dire par exemple, Even, la pierre, Aleph, Bet, Nun. Aleph, Bet, Nun, c'est la combinaison qui va être le réceptacle pour recevoir l'énergie qu'il faut pour générer cette pierre. Alors, il faut savoir que c'est la même chose...
L'énergie réduite.
C'est la même chose pour les noms des personnes. Ouais. C'est la même chose. C'est que le nom d'une personne, est la combinaison qu'il faut pour être le keli pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu.
Pourquoi ça réduit l'énergie?
Pourquoi on est obligé de réduire l'énergie? Bah parce que par définition, alors, chaque fois que tu transvases, tu perds.
Pourquoi c'est transvasé? D'accord.
Bah parce qu'à chaque fois, on permute. On permute, on dit voilà, tu sais, tu avais un Aleph, bah on va te mettre un E à la place. Parce qu'ils sont dans le même groupe. Tu dis, ah bon, tu avais un Aleph, on va te donner un... Tu avais un hé, maintenant on va te donner un zain à la place parce qu'ils sont dans les dizaines.
Non,
ils sont dans les unités.
Je veux que ça cache, mais en quoi ça perd de l'énergie?
Bah, parce que chaque fois que tu le caches, tu perds pas de l'énergie. Tu le caches. C'est-à-dire que c'est plus difficilement accessible.
Donc
puisque tu le caches, oui. Pourquoi je dis atténuer l'énergie? Parce que je vais arriver à, on arrivera dans le chapitre suivant. Quand je dis atténuer l'énergie, ça veut dire que la nature nous donne une sensation d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à retrouver Dieu au travers de la matière.
D'accord, c'est caché alors.
C'est caché.
Mais c'est pas atténué.
Si, c'est aussi atténué. C'est le Tzimtzum. Ça, on va expliquer après. C'est fait exprès, c'est voulu. Il y a un calcul qui est voulu par un cas de jour.
Je ne me rappelle pas pourquoi l'énergie était atténuée.
Il y a deux choses. D'abord, Dieu se cache. Et à part ça, c'est atténué. Parce que sinon, on ne tiendrait pas.
Mais pas fait ça dans le...
Chapitre 2, 3, 9. Non, chaque fois qu'on étudiait ça dans les premiers chapitres du Tanya, on disait à chaque fois.
On expliquera ça après.
Voilà. Mais c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Donc, j'ai fini dans les mots. Ukli le chayut enahim, voilà. Sheyesh b'em kohar vechayut livro yesh mi'ayin. Donc, comment on retrouve l'énergie pour créer ex nihilo la pierre? C'est par la combinaison qu'on retrouve dans Aleph Bet Nun. Ula chayut olam de oraita, et ça c'est le dernier mot, le mot de la fin. De oraita vekutzer ruchu kulacha. Ah, avec ça on va comprendre une phrase très connue du Zohar qui dit que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Ça veut dire quoi quand on dit que la Torah et Dieu, c'est une seule chose? avec ce que le Baal Shem Tov a expliqué, on comprend. Que finalement, c'est pas seulement la Torah et Dieu. La Torah, Dieu et l'humanité, tout ça, ça forme une seule chose. Parce que si tu veux retrouver l'humanité, comment l'humanité est générée par la Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui va te permettre de le trouver? C'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah me permet de comprendre comment un Kadosh Baruch Hu génère les créatures. Donc la Torah, Akadosh Baruch Hu et les hommes, Kulachat, ça forme une seule chose. Ça c'est comment la Gemara Zaken comprend. Bon, là on a fait seulement qu'introduire le sujet. D'accord, parce que là maintenant, attends, la semaine prochaine, on va développer, la semaine prochaine, on va... Non, j'ai pas voulu trop m'attarder dessus, parce que de toutes les façons,
on a compris.
La semaine prochaine, on va prendre un peu plus de temps.
Après, tu vas comprendre.
Mais Bezrat Hashem, dans le deuxième chapitre, on va développer la notion de Yesh Me'ayin, la notion d'Ex Nihilo, telle que le Baal Shem Tov et la Gemara Zaken expliquent, qui est aussi un... On aura aussi des grands chidushim Bezrat Hashem. Mais là, en tout cas, si je peux résumer en deux mots ce qu'on a expliqué aujourd'hui, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, voilà, en un mot, si on veut dire ce que le Baal Shem Tov a dit, le Baal Shem Tov nous dit qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui est indépendante, ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose dans le monde qui peut dire, moi je suis indépendant, je fais ce que je veux, ça n'existe pas. Parce que s'il est là, ça veut dire qu'il est généré par une combinaison de l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour Akadosh Baruch Hu, il suffit qu'il arrête de générer cette énergie, et cette chose-là arrête d'exister.
Alors, comment il peut aller,
donc ça peut aller très très loin, voilà. Comment parler le bravide, comment le mal peut exister, comment...
Le mal, elle a compris.
Ça veut dire quoi ex nihilo, tout ça c'est la notion qu'on va développer. Mais c'était déjà important de commencer avec ça. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on comprend qu'il n'y a rien dans le monde qui n'est pas voulu par Dieu. Rien.
Et libre-arbitre, alors.
D'accord?
Attends, on va arriver. Je crois qu'il y a libre-arbitre, alors.
Doucement.
Mais c'est voulu.
C'est char à Ihoud, ve à Emouna.
Il y a un problème.
Deux choses. Avant d'arriver à la Emouna, il faut d'abord comprendre l'unicité de Dieu. C'est ça, l'unicité? Comprendre. Jacob, j'écoute. Tu poses une question, n'écoute pas la réponse. Alors, c'est quoi l'unicité? Bien sûr qu'il y a une réponse.
C'est une réponse?
C'est quoi la réponse? Avant d'arriver à comprendre la Emouna, libre-arbitre, etc., il faut d'abord comprendre le Ihoud. Char à Ihoud, ve à Emouna. Yichud, c'est l'unicité de Dieu. Comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Hashem Echa, Dieu est un. Après, ce que Vachana va nous expliquer, on va comprendre beaucoup de choses. D'accord? Dieu est un, ça ne veut pas dire simplement qu'il y a un seul Dieu. Non. Dieu est un, ça veut dire que toute l'humanité est générée par l'énergie de Dieu constante. Et qu'il y a une seule énergie qui est là. D'accord? Qui va se camoufler par différentes manières, mais il y a une seule énergie. On va développer d'abord l'unicité de Dieu. Une fois qu'on aura compris l'unicité de Dieu et la création ex nihilo, après on va passer à l'Emouna. On a tout le chapitre pour ça. Bezrat Hashem.
Qui répond à l'Emouna?
L'Emouna, c'est lié au libre-arbitre.
Pourquoi?
Pourquoi pas?
Mais pourquoi? Hein?
Pourquoi pas? Je comprends pas. L'Emouna, c'est la croyance à un Kadosh Baruch Hu.
Oui.
D'accord? Le fait que je crois à un Kadosh Baruch Hu. Dans le cadre de l'Emouna, on a la notion du libre-arbitre.
Ah,
ça
ouais.
Veut dire, bah oui.
Tu cherches pas à le comprendre. Tu dis, voilà, l'Emouna.
Non! Ça veut dire, est-ce que je peux décider ce que je fais tout seul, ou bien est-ce que j'ai la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses pour moi? Et qu'en vérité,
même
moi, j'ai seulement une sensation de décider. On va en parler. Oh, non, j'ai pas donné les conclusions, attention, doucement. J'ai rien dit. Ah, c'est la Emouna, ça. D'abord, Ihoud.
Dévoile pas la sensation des
libre-arbitre. J'ai pas dit ça.
Non, parce que...
Jacob.
Comment
un sujet parcours.
Non, mais là, ça vaut même pas le coup de parler de libre-arbitre.